Benoît et moi.
Et vous.
Une série d'émissions présentées par Olivier Bas, réalisée par Philippe Labrousse, coproduite par les radios francophones publiques, consacrée à Jacques Dutronc.
Dutronc. Attends, tu veux dire le bout du tronc?
Non.
Cigare.
Il était beau, il avait ses yeux bleus transparents, il avait toujours l'air au bord de la larme. Il était très beau et jamais j'ai senti un côté séducteur chez lui, jamais. Mais je veux dire, j'ai jamais vu se servant de son charme et de son physique pour séduire une nana. Il était beaucoup trop timide pour ça. Je crois que c'est les nanas qui allaient vers lui, hein, c'est pas lui.
Méfiez-vous! C'est un truand.
Dutronc, deuxième, le musicien.
Au fait, qu'est-ce qui se cache derrière Dutronc?
Des choses intéressantes sûrement. Il y a le côté gentil.
Dutronc, au micro de Denise Glaser, en 1968.
Il y a la timidité aussi, que les gens prennent souvent pour de l'agressivité, mais enfin ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas réservé uniquement aux artistes. Peut-être une des choses intéressantes, je suis assez sauvage. Je préfère rester seul chez moi que d'être... seul chez quelqu'un d'autre. Et non, c'est vrai. J'ai tous mes petits objets, tout est là. Mmh. Ensuite, qu'est-ce que je peux
seul, dire? Seul ou parce qu'il y a plusieurs sortes de solitude. Il y a aussi la solitude.
Non, seul. Mais peut-être, c'est un peu hypocrite, quand même, un peu jésuite, quand même. Il y a peut-être le seul, mais qui attend quand même peut-être quelqu'un.
Voilà. Oui.
Oui, on ne sait jamais.
Et tu boudes, en attendant.
Non, c'est pas bouder exactement. C'est plutôt. Elle viendra. Non, elle viendra pas. Ça viendra ou ça viendra pas. C'est pas plutôt normand, je crois.
Petit, tout est minute dans notre vie. Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer. Mini, ça manque d'air. Mini jupe et mini moque. Miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus. Minimum et minibus. Petit. Tout est mini dans notre vie. Mini moc et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer. Mini, ça manque d'air. Mini. Mini. Moi je préfère les maxi. Maxi moc et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute. Il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, ça respire l'air. Maxi terre et terre maxus. Maximum et maxibus. Maxi terre et terre maxus. Maximum et maxibus. Maxi terre et terre maxus.
Maxi... C'est vrai que vous êtes timide.
Ah oui, c'est vrai. Enfin, timide. Un petit peu plus que la politesse, mais timide quand même.
Et... Toujours ou est-ce que le succès fait que ça change?
Le succès ne change pas du tout. Ce qui peut me changer, c'est quelques bières. Ça.
Timidité et politesse, ça veut dire quoi les deux mots associés?
Je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais...
Vous l'avez dit plusieurs fois. Hein.
Ben oui, mais je trouve que ça correspond. Ouais. Bon, la politesse, c'est souvent hypocrite et la timidité ne l'est pas. Ça se rejoint, je crois. Ou alors, bon, je ne vais pas reciter ce que j'ai dit depuis longtemps, mais il paraît que mon ami Villeray a dit la même chose. Alors, moi, je sais qu'on avait des points communs avec Villeray et Maurice Pialat. Je reste le dernier, ça me fait un peu chier, mais... Eh bien, je vais tout le temps dans des endroits... que j'aime, bien sûr, d'abord, je ne vais pas pour me montrer, je parle d'endroits que j'aime, soyons bien d'accord là-dessus, et ensuite, je sais où je dois m'installer, sinon je ne reviens pas. Si je dois aller aux toilettes, ce qui arrive à beaucoup d'êtres humains de temps en temps, disons faire pipi, pas, une petite commission, dirons-nous. Si je suis à l'autre bout de la salle est pleine, si les toilettes sont au fond, j'y vais pas. Mais... J'attends, c'est surhumain, j'en peux plus, je sais pas comment faire, ou je m'en vais, je sais pas quoi, j'y vais pas, je peux pas. J'en connais un autre grand timide, c'est Johnny, hein, je vous signale. Je pense qu'il est encore plus timide que moi, c'est pour ça qu'il va de l'avant, terrible, un timide par moment provoque ou va de l'avant. Mais... Bon, c'est vrai que moi, souvent, je me suis servi d'une ex-maîtresse qui était l'alcool, enfin on devrait dire maître, puisque c'est au masculin, je crois, l'alcool, non?
Oui, oui.
Je ne sais pas, il me semble, non?
Oui, oui.
Oui, hein?
Ah oui, je pense.
Je crois, non?
Oui, oui, c'est masculin, les garçons, c'est masculin.
Comme l'argent, c'est y a que Luis Mariano qui la mettait au féminin. Je suis timide, point.
France Inter. Yeah.
C'est l'heure d'une petite leçon d'histoire, période étudiée milieu des 60s, et dans le rôle de l'enseignant, François Armanet, journaliste au Nouvel Observateur, mais aussi auteur et réalisateur de l'impeccable Bande du Drugstore, où Dutron a plus que sa place.
Dutron non seulement appartenait à l'époque des minets du Drugstore, cette époque des minets du Drugstore, elle va de 60 à 68. Tout ça disparaît en 68 parce qu'un autre monde arrive, et dans le film, il s'agit de 66-67. Donc les minets du drugstore, Dutron est l'archétype des minets. C'est-à-dire qu'il a le costume cintré de renommard, la démarche voûtée, la tête légèrement penchée, la mèche, la maigreur. Il y a Léo au cinéma, il y a Dutron pour la musique. Bon, en fait, sur ces jeunes dandys qui fréquentaient le drugstore des Champs-Élysées, en tout cas ce lieu de rendez-vous des blousons dorés, ou en tout cas de ces jeunes bourgeois qui s'encanaillaient autour des Champs-Élysées, en allant saccager allègrement Boum et Rally des beaux quartiers, à ce moment-là, ces jeunes gens détestaient les yéyés. Ils aimaient la pop anglaise et le rhythm and blues. C'est-à-dire qu'ils aimaient d'un côté Aretha Franklin, Otis Redding, et de l'autre côté les crimes, les drogues. En tout cas, c'est ce qui se constitue aussi la bande originale du film. Et en fait, ils détestent les yéyés. Il y a simplement 4 ou 5 chanteurs français qui, eux-mêmes, ont des allures de minet et qui échappent, en tout cas, à leur haine du yéyé. Dutron en première ligne. Il y a aussi Nino Ferrer, qui a une allure incroyable. Il y a Ronnie Bird, qui a une allure de drugstorien impossible. Et puis alors, on peut dire que Gainsbourg, même si Gainsbourg, à ce moment-là, et avec le Gainsbourg de Ford Mustang ou Key In, Key Out, c'est plutôt de 67-68. Donc on peut dire qu'il est dans cette galaxie, mais pas encore précisément à ce moment-là.
Oh, hé, hein, bon.
Non, Dutron apparaît pleinement dans l'air du temps. Il y a évidemment le côté blasé, il y a le cynisme. Tout ça marche, en tout cas avec ses allures de petit frimeur. Bon, Dutron, lui, n'a jamais été un membre de la bande du drugstore. Bon, il y a toute une petite mythologie autour de ce moment-là, parce que il y a un certain nombre de personnes qui sont devenues aujourd'hui célèbres, mais qui ne l'étaient pas du tout à l'époque. En tout cas, comme Gérard Manser, lui, en tout cas, appartenait à la bande du drugstore, mais plutôt vers 64-65. Des gens comme Benoît Jacquot, des gens comme Richard Berry ou Lou Kinney, vraiment sur la fin. Enfin, on reconnaît bien, en tout cas, ces frimeurs au mauvais esprit. Alors, Dutron, lui, n'y participait pas, même s'il connaissait parfaitement les Champs-Élysées. Parce que, au moment des Playboy, écrit par Jacques Lanzmann, qui était directeur du journal Lui, à l'époque, qui était sur les Champs-Élysées. Bon, bah, quand il descendait de son bureau, il les voyait à pied d'œuvre, ces minets. Bon, d'où dans la chanson le fameux vers, c'est Minet qui mange le ronron au drugstore. Dutron sort de l'ordinaire pour deux raisons. Musicalement, il est tout à fait dans l'univers des Kinks ou des Trogs. Et puis au niveau des paroles, il y a l'alchimie absolument inouïe avec Lanzmann. Ça fait une centaine de titres à eux deux, des paroles tranchantes et qui reflètent parfaitement l'époque. Quand on imagine que même plus tard, il est 5 heures, Paris s'éveille, ça c'est ce qui est enregistré et ce qui sort en mai 68. Je veux dire, on voit l'adéquation de l'air du temps, de ce qui, dans un large jury de journalistes, il y a quelques années, eh bien, on avait élu cette chanson, le 45 tours numéro 1 de l'histoire des 45 tours de France. Donc c'est pas rien.
Oh yeah.
Mais quand sort et moi en 68, 700 millions de petits Chinois, il y a le péril jaune derrière. Quand il sort l'opportuniste, je retourne ma veste, c'est tout à fait prémonitoire. Donc ils savent choper l'air du temps de façon incroyable. Alors pour donner un exemple encore plus accessible que l'évolution de Dutron, mais enfin qui passe quand même en moins de 2 ans des mois. Ah, il est 5 heures, Paris s'éveille, donc il y a quand même une sophistication et des textes et de la musique qui est absolument incroyable. Mais les Beatles, sur ces 2 années-là, passent quasiment de Rubber Soul à Revolver, puis Sgt. Pepper's, puis le double blanc. Donc tous les 6 à 8 mois, le monde est révolutionné et la musique en est le principal témoin.
Alors, il y a des choses fausses.
Hein. Ah, tout est faux. Ouais. Tout. C'est un trucage, c'est un montage. Non, mais il y a des erreurs de chiffres, de dates. Ouais, non, on ne va pas parler de chiffres.
Mais vous n'étiez pas un Minet.
Pas du tout, non. Je me suis retrouvé un jour propulsé dans une Rolls et emmené dans un hôtel particulier magnifique. Enfin, je me rappelle plus pourquoi, parce que les vapeurs de l'alcool de poire avaient dû me faire oublier le début, mais je me suis retrouvé dans un hôtel particulier, donc magnifique, et dans une chambre gigantesque, et une porte s'ouvre, et je vois un truc assez énorme qui vient, et dit « Je suis une mante religieuse, je vais te manger, je sais pas quoi, une femme énorme ». Et je dois dire que j'ai eu très peu. Là, j'ai eu le trac. On parlait de trac il y a quelques temps. Là, j'ai eu le trac. Après, je ne m'en rappelle plus. Il vaut mieux, je crois. Mais je pense que oui, qu'au fond de date, là, il est charmant. Mais c'est 66, c'est moi et moi. C'est l'inverse, oui. Mais dans ce, je n'étais pas du tout un mec du drugstore. Au contraire, je fuyais ces gens-là. Je les détestais. Mais par contre, ils ont fait une erreur un jour. Puisque eux, c'était leur truc à eux, Drugstore. Puis en plus, les gens qu'il a cités, c'est pas à part lui que j'aime beaucoup. Les autres dont il a cité, je veux bien. Gérard Manset, c'est bien. Mais tout ça, c'est, comme dirait le philosophe Jean-Louis-y, c'est pas mon monde. Ça, c'était pas mon truc. Au contraire, la chanson, c'était pour se moquer de ces gens-là.
Oh, yeah.
Oui, une chanson qui reste pour moi, Jacques Dutronc, c'est. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est les Playboys. Parce que c'est lui, quoi. C'est lui. D'abord, Jacques, c'est un playboy, c'est un beau garçon. C'est un garçon qui plaît beaucoup aux jeunes filles, c'est un garçon qui plaît beaucoup aux filles en général. Et il a des beaux yeux bleus, lui aussi. Et il sait s'en servir quand il veut, hein, parce qu'il baisse pas toujours les yeux. Il baisse les yeux quand il parle aux hommes, mais il lève les yeux quand il parle aux femmes. Mais non, c'est vrai, c'est un garçon qui a beaucoup de. Il a beaucoup de charisme, Jacques.
C'est la télé. Allez voir si on était payé. On ne sait jamais, vous savez, dans ce métier. Bon, je vais voir si j'étais payé, j'arrive. En fait, comme si j'étais là. Youpi. Plus fort. J'ai C'est ici, la paye est ici, messieurs. Vous pouvez reprendre vos instruments. Bon, on va réenchaîner le fond de l'air. Fait la yo, la yo. Alors, ambiance Paris. Ah oui, il faut enchaîner, il faut le spectacle. Voilà. Et maintenant, voici les Playboys. Il y a les Playboys de profession habillés par Chardin et chaussés par Charlie. Tirant l'enferraille à la place comme à la ville, qui vont ses quartiers comme ils vont ses fauchons. Et l'envoi qui s'en est à foutre.
Moi, il veut que je sois jaloux. Pas du tout. Pas du tout. Et moi, j'ai un piège à fille, un piège de tabou. Un joujou extra qui fait craque mon cul. Les filles entrent pas mes sous. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au rockstar. Ils travaillent tout comme des castors, ni avec ses mains, ni avec ses pieds, n'est-ce pas?
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. Pas du tout. Au revoir. J'ai un piège à fil, un piège tabou. Un joujou extra malade qui fait craque boucu.
Les filles en tombent à mes doigts. Vous savez que je crains pas non plus les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes, ni le genre maître nageur. Ça, aux yeux d'acier, aux sueurs coliquettes, en Harley Davidson, ils se promènent. Et alors,
croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. Pas du tout. Mais moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque mon cul.
Les filles en tombent à mes genoux. Et puis il y a les drogués, les fous d'usance, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Et puis aussi aux mannequins, chez Catherine Harley et ceux qui se marient à la Madeleine.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. Pas du tout. Comment? J'ai un piège à fil, un piège tabou,
un joujou extra qui fait à peu près. Les filles en tombent à mes joues, je vois comment ce qui fait à peu près. Je veux bien exagérer, mon frère. Oui, là ça va. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà, je suis en plus, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop.
Oui, mais attention, un Jacques peut en cacher un autre.
On faisait des chansons pour quelqu'un d'autre et puis on s'est dit au fond, le type qui va les chanter n'est pas tellement intéressant. Et Dutronc a dit, je les chante moi-même. Et depuis ce temps-là, je transpire des mains, je suis nerveux, je suis malade, je suis fatigué, ils me crèvent, j'en peux plus, ils auront ma peau.
Mars 67, extrait du journal d'un honnête homme, Lanzmann et Dutronc, sur France Inter.
Oui, mais vous, Dutronc, vous avez voulu jouer la vedette, là, alors, ou prendre la place d'un petit camarade?
Non, non, bah, il a dit exactement la stricte vérité. Nous faisions des chansons ensemble, ici d'ailleurs, pour un personnage, chevelu. Enfin, il chantait peut-être bien ou quoi que ce soit, mais enfin, il n'avait pas tellement le sens de l'humour. Ce qui est assez gênant vis-à-vis de M. Lanzmann. Et c'est lui surtout qui m'a poussé. Il a pas à se plaindre de ses transpirations, de ses trafics. C'est lui qui m'a poussé à chanter et j'ai accepté, voilà. Et c'est moi, en fait, qui suis malade. C'est pour lui.
Oui, ça, évidemment, l'humour pour Jacques Lanzmann, je crois que c'est important. Hein.
Pour moi, c'est le calembour uniquement. Le calembour bien fait, bien coulant. Et le sens de l'humour, c'est un truc inné.
Oui, mais alors la variété, c'est sérieux ou c'est pas sérieux?
Pas très, non. Non, c'est pas très très sérieux. C'est sérieux dans la mesure où ça amuse les gens. Alors faut le faire un peu sérieusement, parce que l'humour doit être pris au sérieux de toute façon. Ne pas se prendre au sérieux soi-même, mais ce qu'on fait pour faire rire. Et on continue à faire rire les gens à travers Dutronc.
Tout compte fait, tous les deux vous êtes des provocateurs. Il n'y a pas d'autre mot.
Dans la dernière chanson, il y a une provocation évidente même, alors. Voilà. Évidente, non, mais c'est pas une provocation, c'est une petite satire. Est-ce que tu permets, là, justement, qu'on en lise une phrase, là?
C'est
Oui, Mimile. Hein? Vous voyez, par exemple, ça. Ah ben non. On va vous lire ça tout de suite parce que. Alors vraiment, on l'a faite très vite, celle-là. Vous voyez, c'est une chanson sur les ouvriers, sur la gauche, tout ça. Oh Mimile et Mimile, où cours-tu comme ça? T'es pressé ou quoi de rentrer chez toi? Oh Mimile et Mimile, maintenant l'ouvrier travaille à la chaîne devant sa deuxième chaîne. Guili, guili, guili. Ah, il s'en fait pas, Mimile, il gagne des cents et des mille, il est beau, il est viril avec tous ses ustensiles et sa petite laxon cils. Enfin, vous voyez, etc., ça part comme ça et on prouve par A plus B que l'ouvrier va passer ses week-ends à Tahiti et heureux. Si vous voulez, c'est pas du tout une provocation, mais on provoque les gens qui pensent ça. Parce que Dutronc, il a tout à fait le sens de l'ouvriérisme et moi aussi. Nous sommes des gens de gauche.
Tout compte fait, vous donnez dans le social à fond, quoi.
Oui, on prend le contre-pied. À défaut de prendre son propre pied, ça sera coupé. Non, non, on prend le contre-pied parce que moi, je ne pense pas, je ne crois pas que les choses sérieuses rentrent bien dans la tête des gens. Je crois qu'il faut leur dire d'une manière un peu originale et pas sérieuse du tout. Ça fera plus. Vous voyez, de toute façon, on ne peut plus scandaliser le bourgeois. Ça fait bien 20 ans qu'on ne peut plus. Donc, il faut l'amuser, lui faire comprendre en l'amusant que les choses vont pas très bien. Par exemple, dans la chanson « et moi », c'était vraiment la mauvaise conscience du français moyen. 700 millions de Chinois, il se passe des trucs, des choses, il y a des gens qui crèvent de faim, et nous, on est là, dans sa petite voiture, avec son ronron pour son chien, le caligou, tout ce que vous voulez. C'est ça, en fait. Enfin, on se prend pas trop au sérieux. On se prendra au sérieux le jour où on va commencer à toucher les droits d'auteur, je crois. Hein ? C'est vrai. En écrivant « et moi », le monde crève de faim et tout ça, nous, on s'achète des châteaux. Vous voyez, c'est le fin mot de l'histoire, au fond.
Maintenant, Dutronc tout seul, Discorama, en 1968.
À propos de Lanzmann, c'est bien dommage qu'ils ne soient pas là aujourd'hui. Vous ne parlez jamais de la chanson. Par exemple, quand il écrit des chansons pour vous, est-ce que vous lui faites modifier des phrases ou est-ce que vous collaborez?
Oui.
Oui,
ah oui, mais... Enfin, c'est-à-dire que... Souvent, je lui dis, j'aimerais bien une chanson sur tel ou tel sujet.
Oui.
Alors lui, c'est une machine, non, très bien. Sa femme l'aide aussi. Je fais pas office de correcteur, loin de là.
Mais c'est bien, parce que vous lui apportez l'écho du public. Quand même, un peu.
Oui. C'est pas tout ce que je lui rapporte. Il y a une très jolie maison en Normandie.
Je voudrais m'acheter une démocratie. Je voudrais m'acheter le meilleur d'une vie. Je voudrais m'acheter de la liberté. Et puis un peu de fraternité. On n'a pas ce genre d'article, vous vous trompez de boutique. Ici, c'est pas la République. Je voudrais m'acheter des petits bonheurs. Je voudrais m'acheter des contre-malheurs. Je voudrais m'acheter un peu de vérité, et puis aussi quelque chose pour rêver. On n'a pas ce genre d'article, vous vous trompez de boutique. Ici, c'est pas la République. Je voudrais m'acheter un morceau d'avenir. Je voudrais m'acheter des envies de sourire. Je voudrais m'acheter un très très grand amour et pouvoir aimer 35 heures tous les jours. On n'a pas ce genre d'article. Tromper de boutique, ici c'est pas la République. contre la misère, on a des cache-misères. Contre la misère, on a de la poudre aux yeux. Et puis encore, un peu de ciel bleu. Merci, merci, madame l'existence. Je vais donc changer de boutique et voir si la République ne vend pas ce genre d'article. Merci, merci, madame l'existence. Je vais donc changer de boutique et voir si la République ne vend pas ce genre d'article. Merci, merci, madame l'existence. Merci. Merci, madame.
Lanzmann, c'est... Lanzmann, Jacques, les deux Jacques se côtoyaient. Il était taulier de chez lui, du magazine, lui, Jaco. Et il devait être pote avec l'autre Jacques. Et puis, il a dû lui dire, comme je peux dire, moi, à certains, d'ailleurs à beaucoup, c'est les paroliers, c'est une chose, ils en ont tellement dans leur tiroir que tu retombes toujours sur la même chose. Il faut demander à d'autres gens, des écrivains, des journalistes, ou un mec comme Jaco, qui écrivait très très bien. Bon, le problème, écrire une chanson, c'est beaucoup plus dur qu'un roman, parce que c'est compact, là, c'est quand même plus dur, c'est autre chose, faut pas trop s'étaler, faut trouver les mots justes, comme il faut trouver les notes justes, bon. Parce que moi, les textes qu'il me donnait, c'était, il n'avait pas l'habitude des pieds, il fait pas sonner les trucs, donc je refaisais tout, pratiquement, enfin c'était, bon d'ailleurs, dans un certain bouquin, j'ai dit, j'ai trouvé la dernière formule, il faisait le marché, et moi, je faisais la cuisine, voilà. Ça va, ça, je sais pas si c'est assez clair. Bon, par moments, je faisais le marché aussi. Mais lui, jamais la cuisine.
Là, on va parler un petit peu des paroliers. Donc, Lanzmann, on a traité le cas. Anne Ségalen, quand il co-signait avec Jacques Lanzmann, elle avait quelle part de responsabilité?
Elle devait travailler avec lui. En plus, c'était sa femme. Ouais. Je sais pas, il devait s'arranger, je ne sais pas où. Lui avait le stylo et elle devait faire l'encre.
Là, on parle plus de l'époque où on glissait les mots sous la porte et tout.
Ah
ça,
non,
c'est des trucs.
C'était rue d'Hauteville, oui. Où il ne pouvait pas sortir du bureau tant que le texte n'était pas bon. Il était enfermé. mais il n'était pas en porte-jartel quand même, ni fouetté, ni tout ça. Hein. Il était normal, il avait des thermos d'eau fraîche, tout était logique.
Il était guidé, on va dire, peut-être.
Non, mais il aimait bien, puis il avait... Il était drôle, enfin il avait tout, c'était formidable. Et c'était pas des, il parle de calembours, mais c'est pas les calembours de caserne comme j'entends certains là, minables. Certains en font là maintenant, ça suffit. C'est la vulgarité, ça va, faut arrêter quand même. Parce que il y a la vraie vulgarité, alors ça j'admire les vrais vulgos, mais il y a d'autres vulgaires de luxe qui sont des numéros 1 en France, et ça c'est grave là. Il faudrait que l'humour l'emporte là-dessus, mais c'est assez difficile le combat de l'humour. C'est plus en discussion que les choses arrivent, et voilà, il y a des gens qui sont comme elle, ou comme Jaco, le perroquet, qui ont quand même un dictionnaire beaucoup plus intense et plus riche que moi dans la tronche. Et, non, mais c'est vrai. Ben, c'est logique, c'est quand même des gens quand même sûrement plus fertiles que moi, et cultivés et fertiles.
Françoise Hardy, on va dire que c'est une grande parolière, elle a écrit plein de chansons pour plein de gens. Si je ne me suis pas trompé, aidée en ça par Jésus, elle vous a jamais écrit de chansons?
Françoise Dutronc Hardy, Françoise Hardy, moi, elle m'a toujours filé un cafard, mais terrible. Je ne pouvais pas écouter ses chansons, j'avais les larmes qui me sautillaient aux yeux. Léo Ferré aussi, d'ailleurs, pour certaines chansons incroyables. Et Beethoven aussi, hein, que je les rassure. Françoise Hardy, c'est chez Vogue aussi. C'est quelqu'un qui, quand même, écrit très bien, mais elle n'a jamais écrit pour moi. Elle a écrit avec moi, dirons-nous, puisqu'elle a fait... Va pas prendre un tambour. On m'a filé son texte et j'ai fait ça à l'armée, d'ailleurs. J'avais fait la musique avant ou après, je ne sais pas. J'avais fait ça à l'armée, d'ailleurs, à la honte de cette chanson, bon, peu importe. Et après, j'avais fait cette musique. Je dois en oublier, mais je saute de l'armée à... C'est pas si vieux que ça. Enfin, je sais pas, je compte plus les années. Enfin, d'un seul coup, ça va beaucoup plus vite que prévu. Mais... Et donc, c'était partir quand même.
France Inter.
Alors, j'ai regardé absolument, je pense, tous les crédits des albums de Jacques Dutronc. Vous êtes connu pour vos talents de parolière. Le mot est un peu bizarre, mais si je me suis pas trompé, vous n'avez jamais écrit une chanson pour lui. Comment ça se fait ?
Non, mais parce qu'il a un style très particulier qui n'a rien à voir avec mon style d'écriture. Mais il faut dire aussi que, en ce qui concerne les textes, peut-être pas dans tous les cas, mais dans de nombreux cas, c'est lui qui a donné les idées. Ce qui explique peut-être que Jacques Lanzmann, en dehors de lui, n'a pas fait grand-chose d'intéressant. Lui, il a toujours eu des textes très satiriques, très cyniques. C'est particulier, vraiment. Alors que moi, j'écris des textes de chansons très classiques, très sentimentaux. Donc, non, la seule fois où il m'a demandé d'écrire pour lui, j'avais entendu une musique. Donc, je savais qu'il était en train de préparer un album. Alors, c'est toujours très mystérieux quand il prépare un album, parce qu'en général, je n'entends jamais rien. Je me demande quand et où, comment il travaille, parce que je n'entends jamais rien. Et là, en l'occurrence, j'avais entendu une musique et que je trouvais très, très, très jolie. Et j'ai fini par le lui dire. Je lui dis, mais cette musique, elle est vraiment très, très, très jolie. Et quelques temps après, il me dit, mais si tu trouves cette musique bien, est-ce que tu pourrais pas essayer de faire un texte dessus? Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit Partir quand même. Mais cette chanson lui était destinée au début. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a fait réaliser par quelqu'un, il me semble que c'est un musicien qui s'appelle Philippe Edel. Oui. Et moi, quand je suis arrivée en studio, j'ai trouvé que la réalisation était mais tout à fait à côté de la plaque, c'est-à-dire que la réalisation détruisait la chanson, sabotait la chanson. Il y a des réalisations comme ça, hein, qui sont tellement à côté que la chanson passe à l'as et perd sa magie, perd tout. Et donc, moi, j'ai protesté de manière très véhémente et probablement très insultante et humiliante pour Philippe Edel. Mais pour moi, dans une situation comme ça, ce qui compte, c'est pas le réalisateur, c'est pas prendre les formes et tout, c'est la chanson, quoi. Faut la sauver et il n'y a pas de temps à perdre. Bon, enfin, résultat des courses, finalement, il ne l'a pas chantée. Et donc, finalement, c'est moi qui en ai hérité.
C'était plus pour elle que pour moi et il n'y a pas de doute. Et je trouve que c'est une très belle chanson. Mmh. Et le texte était formidable, je regrette. Mais c'est vrai qu'elle écrit très, très, très bien. Hein. Les gens ne s'en rendent pas tout très bien. Enfin, je ne sais pas, ne s'en rendent pas vraiment compte. Mais enfin, si, c'est
certain. Si, si, quand même.
Pas tous, mais elle écrit très, très bien. C'est vrai qu'elle a écrit les plus belles chansons d'amour qui existent, quand même.
Par contre, vous avez chanté des paroles de votre fils, Thomas.
Mmh.
C'est... Un de vos paroliers aussi, alors.
Oui, j'ai même mangé chez lui, tout ça. Nous sommes très amis.
Dans cette découverte du monde, d'un seul coup, dans ma sortie du cocon...
Thomas Dutronc.
Je traînais beaucoup avec un copain de la fac, avec qui on a coécrit, qui s'appelle Arnaud Garou. Et on traînait beaucoup avec mon père et Jean. Jean nous faisait rire tellement. Donc on était... On buvait un milliard de bières avec toute l'équipe et on se marrait beaucoup. C'était l'époque de plaisir. Donc c'était nous on rigolait énormément avec mon père et tout ça, c'était vachement drôle quoi. Et ce qui s'est passé en fait, c'est comme il faisait un nouveau disque, il avait genre un milliard de textes, une pile de tu vois, il y avait 3000 textes. Et donc il a dit putain, il y en a tellement, on voulait pas faire un premier tri et tout. Donc mon copain et moi, on a commencé à lire les textes et on était catastrophés. Bon, à l'époque en plus on était fan de je sais pas moi, des Monty Python ou de je sais pas quoi, tout ce qui était comique ou ou de la dérision, etc. Donc là, les textes qu'on voyait, c'était... C'était assez triste. Alors en plus, avec comment dire, pas la méchanceté de la jeunesse, mais le vous voyez, on peut être très cassant quand on est jeune, quoi. Donc on était tout jeune et on trouvait que les textes étaient vraiment... qu'il n'y avait rien, quoi, que c'était un ramassis. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bah tiens, on pourrait essayer nous. Là, on s'est rendu compte après, effectivement, que c'était vachement dur d'écrire et que c'était un vrai métier. J'ai passé plein de temps à travailler avec... Alors c'était avec Arnaud, avec Stamy, à essayer de faire d'autres textes pour mon père. Alors c'est très compliqué de travailler avec mon père. Avec son père, je sais pas, mais avec mon père, c'est très compliqué. C'est très très compliqué parce que il entraîne vers des tas de terrains qui sont assez compliqués et étranges. Vraiment, rien n'est simple.
Ça, c'est pour revenir, je dirais, un peu en arrière. Il y a la célèbre trilogie Brel, Brassens, Ferré, etc. Vous, votre famille musicale réelle, elle est plus... Vous avez dit votre amour pour Mouloudji, vous l'avez chanté aussi, oui. Frêle. Vous parliez de Georgius, que je ne connais pas du tout. Donc c'est plus ça, votre famille musicale, elle est plus ancienne que Brel, Brassens, Ferré
Non. Ah non, non. Non, mais Brel, Brassens et Ferré, c'était quand même les références. Les références qui ont traversé pas mal d'époques et pour cause... Non, mais Brassens, j'avais une admiration sans borne. Ça, c'est grâce à mon frère aussi. Ou à cause, au départ à cause. Puis en plus, c'était interdit d'écouter ses disques. C'était interdit partout. Ah, c'était Brassens. Quel homme, c'était quel homme génial. Quand je pense qu'il y a des cons que j'aime pas, il n'y a pas de musique. Il n'y a rien de plus compliqué que ses mélodies. Il n'y a rien de plus harmonique que ce qu'il a fait. C'est un type formidable. Tout le monde, ça devrait être obligatoire dans les écoles. Léo Ferré, lui, m'a fait chialer, c'est différent. Brassens, ça a été un des plus beaux jours, pas des plus beaux jours de sa vie, disons, de la semaine, dirons-nous, ou du mois, quoi, ou de l'année. C'était l'anniversaire de Serge Gainsbourg, hein, je précise, ou de Jane, je ne sais plus. Non, je crois que c'est de Serge, et Jane, ça faisait très... maintenant, c'est très à la mode de faire des surprises comme invité. Maintenant, tout le monde fait ça, c'est absolument ridicule. Bon. Ça fait chier tout le monde. Ah, bon, c'est pas grave, mais... Et la surprise pour Serge, c'était... On a bouffé chez... Palais Royal, là. Oliver, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Grand Véfour, super luxe. On retrouve là-dedans. Et les invités comme surprise, il y avait Brassens... Donc Serge n'avait plus du tout d'intérêt pour moi.
Dutronc, Brassens, Gainsbourg, les trois au même endroit? Non là vraiment, j'aurais bien voulu être là quand même.
Et dans le sens inverse, maintenant, si toutefois vous écoutez la radio, etc., est-ce que vous sentez j'aime pas le mot, mais enfin des héritiers, je sais pas. Alors le seul qui m'est venu en tête, je me suis dit, tiens, s'il chantait Benoît Poulvorde, ça vous plairait pas de vous dire qu'il a dû écouter des disques de Dutronc.
Excusez-moi. C'est la clim.
À vos souhaits.
Non, c'est un secret, je suis allergique aux poils de chat. Tu viens de parler de Benoît, là.
Oui.
Tu veux dire celui qui a fait Podium.
Oui.
Pour resituer, pour la personne qui entend mal. C'est un génie, ce mec. Je trouve que je ne le connais pas, mais c'est... Pour moi, c'est un génie. Il fait partie de la famille, celui-là. C'est un grand. Et en plus, j'ai appris que, je ne sais pas s'il a lu ce que j'ai déjà dit, c'est que moi, quand je ne tournais pas machin, souvent on m'a demandé qu'est-ce que vous faites, à part quand vous tournez ou vous ne tournez pas au machin, vous ne chantez pas, qu'est-ce que vous faites? J'ai souvent dit, je fais le ménage. Et je fais le ménage très souvent. Défoulement, bon, j'ai appris à tenir mieux un aspirateur, faut avoir les jambes écartées, sinon, comme j'ai des problèmes de prothèse et machin, bon, j'ai appris certaines choses, de position, j'ai travaillé ça, et donc j'ai appris que ce mec-là, pour se défouler, dès qu'il finissait un tournage, il faisait le ménage chez lui. Bon, mais il le dit bien, parce que Ingrid Bergman faisait le ménage, mais elle, c'était était détraquée. Il me plaît beaucoup, ce mec. Oh là là. Mais je ne le connais pas du tout. Ça, c'est le problème de ne plus faire pour moi de cinéma, là, parce que même si le film est mauvais, on rencontre des gens bien. Quoi. Eh oui,
Allô, ne quittez pas l'écoute.
À quel moment vous décidez qu'une chanson, elle est bonne à passer en studio, elle est bonne à enregistrer Parce qu'on a vu hier qu'au début, les séances, c'était 3 heures. Et maintenant, comment ça se passe, quoi, au jour d'aujourd'hui?
Ah ben oui, il faut faire un saut dans le temps, parce que effectivement, avant, les séances, comme on appelait, étaient de 3 heures, et dont un quart d'heure musicien. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de temps en studio, il faut arriver pratiquement tout fini, quoi. Les maquettes sont très élaborées. Souvent, d'ailleurs, les maquettes sont meilleures que ce qui se passe en studio, parce qu'on a, c'est le premier jet, il y a un son à part, et il y a quelque chose de peut-être plus magique dans les maquettes, enfin, ça dépend lesquelles, mais... Alors, de là à décider que si la chanson est prête à enregistrer, c'est lorsqu'on l'a déjà enregistrée, je crois. Et non, mais l'écouter dans de bonnes conditions, quoi. Parce que souvent, on peut l'entendre dans sa tête, mais on peut la chanter dans sa tête, voir plus ou moins ce que ça pourrait... Enfin, avoir plus ou moins le résultat. Mais pour les autres, c'est pas très persuasif. Donc, je pense qu'il faut se lancer, et puis... C'est après que l'on peut modifier. Enfin, j'aime pas trop modifier, rajouter. Certains sont les spécialistes du rajoutis, mais j'aime pas beaucoup ça. Et puis j'aime bien qu'il y ait de l'espace, et pour tout le monde, quoi, pour les oreilles, pour l'imagination aussi, pour un tas de choses.
Et au niveau de la musique, comment ça se passe? Il y a des airs comme ça qui vous trottent dans la tête ouais. Est-ce que vous en avez en ce moment, par exemple?
Ah non, en ce moment, non. Là, j'ai pas dans la tête. Quand j'ai des vapeurs de bière, là. Actuellement, non, je plaisante, mais non, ça arrive, ouais, mais faut se méfier, parce que ça peut être un truc que l'on a écouté il y a 10 ans, ou qui vous revient comme ça, ou alors c'est on entend des... Enfin, sans écouter vraiment, mettons quelqu'un pas loin de vous met des disques, et il y a un petit truc qu'on entend, ça peut faire un départ d'une chanson, et après ça s'étoffe autour, et ça devient plutôt une mélodie, quoi. Mmh. Ça arrive, ça va.
J'aime bien le mot, le fruit de votre travail, que ce soit des films ou des disques, c'est toujours vécu comme un événement médiatico, tout ça. Ah. Et vous les vivez comment? C'est votre travail ou vous comprenez que les gens, il y a une espèce d'ébullition, d'excitation
Non, je ne comprends pas ça, ça fait trop, je vous attends au tournant. Mais... non, mais ça ressemble à ça aussi. Parce qu'ils se montent un peu la tronche, là. En épingle, enfin, je sais pas. Il se la joue, comme on dit, parce que je vois pas pourquoi ce serait un événement.
Parce que c'est vous?
Oui, non, mais je suis pas un événement du tout. Mais il y en a d'autres, quand même, sur Terre, des événements qui sont quand même plus appréciables.
C'est peut-être une preuve d'affection aussi, non?
Ah, pourquoi pas. Mais je manque d'affection, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, dès que je sors pas de disque et dès que je fais pas de film, je manque d'affection, c'est terrible. Je suis obligé de vivre sur le passé, là. Mais c'est vrai que sont les journalistes qui font ça, ou je sais pas, ou les maisons de disques, ils aiment bien se prendre la tête avec ça. Donc, genre, attention, il y a le Dutronc qui va sortir. Là, j'entendais, il y a le... comment ça s'appelle? Mylène Farmer. Attention, ça va être un gros, gros truc, les mecs misent, alors que déjà, tout est pillé sur les ordinateurs. Enfin bon. Puis heureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis les gens n'ont pas assez de sous pour tout acheter, déjà. Donc c'est pour ça que moi, j'essaye d'en faire un peu. Je ne veux pas trop gêner les autres. Mais...
Petit rappel des épisodes précédents.
Sur France Inter.
Bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi...
Lors de votre toute première tournée, où au moins il y avait un concert à Juin-les-Pins, je ne sais pas si vous en souvenez, vous aviez proposé à Jacques d'être votre guitariste. Et alors, est-ce que c'est... un bonheur ou un malheur, il n'a pas pu y aller. Vous vous souvenez de cet épisode?
Oui, bien sûr. À l'époque, je n'avais pas de musicien, donc j'étais accompagné par les musiciens de...
Johnny Hallyday.
Comment ça s'appelait l'endroit où le Vieux Colombier, qui étaient des musiciens de baloche, hein, ce n'étaient pas des musiciens avant, terribles.
Pas très rock'n'roll.
Non, pas très rock'n'roll. Le batteur, un petit moustachu, un peu rondoyard derrière moi, qui devait avoir 30 ans de plus que moi, me regardait d'un air attendri en disant, ce pauvre garçon, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Quand je commençais à entamer Led Zeppelin partie de Presley. Et j'avais demandé à Jacques, oui, Jacques c'était un bon guitariste déjà, hein. J'avais demandé à Jacques d'être, s'il voulait faire avec moi la saison, hein, au Vieux Colombier, parce que bon, j'avais pas de guitariste. Puis Jacques, à l'époque, montait son groupe, donc il n'a pas pu le faire, malheureusement. Puis ben, tant mieux pour lui, parce que par la suite, il est devenu Jacques Dutronc, et ça, c'est important, surtout.
Jacques a été ensuite...
Eddie Mitchell.
Assistant directeur artistique chez Vogue. Et il y avait un bistrot où tout le monde allait, par contre, qui était en face, et qui était toujours dans le même coin, d'ailleurs, qui s'appelait le Calypso, Calypso Bar, où il y avait un très bon jukebox, où il y avait vraiment de la bonne musique, et ça aidait, ça attirait des jeunes crétins comme nous. Et donc, lui était en face, donc ça facilitait, je veux dire, les conversations, ce qui fait que, bon, bien encore plus tard, quand lui était devenu vraiment musicien, guitariste, puisqu'il avait monté son groupe oh combien resté célèbre, El Toro et ses cyclones, avec celui qui deviendra plus tard l'émir du twist, Calafat. Bon, le groupe marchait pas terrible, mais, malgré tout le talent proposé. Et moi, j'avais déjà quitté les Chaussettes Noires, c'était les Pirates qui m'accompagnaient, puis après c'était plus les Pirates, et j'avais remonté un orchestre, et c'était Jacques qui était mon guitariste à cette époque-là, ça doit être 65-66, un truc comme ça.
C'était un bon guitariste ?
C'était un bon guitariste qui avait des références très Chet Atkins. C'était un grand admirateur de... Je dis c'était, c'est le sûrement toujours, j'imagine, d'ailleurs. Mais je pense pas qu'il gratte beaucoup la guitare, parce que c'est vrai que ça prend du temps, et puis qu'il y en a qui en jouent tellement mieux. Non, mais c'est vrai qu'il jouait bien, Jacques.
Et en tant que compositeur, sur l'ensemble de sa carrière, vous le jugeriez comment ? Il y a des mélodies quand même incroyables.
Mais je dis qu'il a, il a un côté, comme vous dites, c'est mélodiste plus que compositeur. Parce que les harmonies sont pas réellement... un compositeur va travailler plus ses harmonies, ce qui n'est pas, à mon avis, le cas de Jacques. C'est plus la mélodie pour elle-même. Mais il y a l'atavisme, son père aussi. Je crois que c'est de famille. Et puis, et c'est vrai qu'il y a des mélodies merveilleuses et qui auraient mérité, d'ailleurs, peut-être que... Ou que l'arrangeur, ou qu'un... Un compositeur ami lui montre quelque chose. Je pense à Paris s'éveille. C'est une mélodie qui est très riche en... Enfin, c'est ma vision. Qui est très riche en harmonie et qui n'est pas assez exploitée, je trouve.
Tout ce que je voulais, c'est une chanson sur Paris, sans accordéon, et ni l'anneau d'amarrage pour une péniche et un pont de Paris, quoi... avec des clodos dessous, et l'accordéon, je voulais pas ça, je voulais autre chose. Mais elle est bien, cette chanson, c'est très joli. Ouais, c'est... Bon, la musique, c'est un autre truc. Quoi. C'est, Mitchell en a parlé un jour, je crois, je sais plus quand. Et il trouve que musicalement c'est hyper simple... Il lui trouve que les harmonies auraient dû être... non, justement, j'ai fait le plus simple possible par rapport à un texte aussi... presque comme un... Pas un poème, mais presque, quoi, comme une... c'est très imagé. Pourquoi souligner qu'une musique qui va bouffer le texte, faut pas, ouais.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Au départ, je voulais pas d'accordéon pour ne pas trop resituer Paris comme d'habitude. Ça, on en a parlé, mm-hmm. sûrement, ou on en parlera, mais je crois qu'on en a parlé. Mm-hmm. Ou on en... Enfin bon, peu importe. Et je voulais plutôt une guitare, ce que tout le monde joue maintenant, genre manouche. Je voulais ça au départ. Une guitare manouche qui fasse des volutes comme ça. Et puis, la séance suivante, il y avait Roger Bourdin, derrière moi, qui est venu me... qui était un maître, quand même. Mm-hmm. Un maître de la flûte, prof au con... Enfin, c'était un géant, lui, ce mec-là. Et je crois que c'est Volson qui lui... Il était dans la cabine, il a écouté enfin, ce qu'on avait fait, comme ça. Il a dit, putain, c'est beau, et tout ça, c'est Paris, ça, c'est bien. Donc, on a dit, bah, essaye de faire... fais un petit truc dessus dans les trucs, là, les fleuritures, tu fais des... Bah, il a dit, vous le passez, puis je vais tenter.
France Inter.
Donc on lui a passé, il a tenté. D'ailleurs, il y a deux trucs faux, mais c'est pas mal, c'est au contraire. Et il voulait le refaire ensuite. Il lui a dit, non, non, c'est parfait comme ça. Parce qu'il aurait travaillé, et ça devenait pas spontané comme il a fait. Là, c'est pour ça que ça s'envole dans des trucs...
Question risquée. Pour qui chantez-vous, monsieur Dutronc?
Pourquoi je chante?
Non, non, pour qui chantez-vous?
Ah, pour qui? Bah, je sais pas.
Vous savez pas? Vous avez pas une idée?
Non. Ah, déjà pour un disque, pour les personnes, attends, j'arrive. Je chante déjà pour qui, j'en sais rien. Il faudrait que je prenne l'identité de tous les gens qui achètent des disques. Je chante pas pour les enfants, tout quoi. Ni pour les vieillards, ni pour les... Je sais pas.
Un jour, vous avez dit, je chante pour ceux qui m'aiment et, ah oui. Et ceux qui ne m'aiment pas, je les emmerde. Ou un truc comme
oui,
ça.
Oui, c'est possible. Oui, mais ça, c'est. Y a pas, il suffit pas de chanter pour penser ça, et pour tout. Donc, le cinéma, c'est différent. Si je tourne aussi pour qui, c'est d'abord pour le metteur en scène. C'est le premier spectateur, enfin la caméra, bien sûr, mais première spectatrice bien placée, en principe. Et c'est pour le metteur en scène. Si j'arrive à plaire au metteur en scène, le public, c'est parce que ça ne me regarde pas. Mais.
Puisque vous êtes vraiment très, très gentil avec moi. Les applaudissements sont parfaits, mais ce qui me manque, c'est un triomphe. Vous savez ce que c'est le triomphe? C'est les mêmes applaudissements, mais debout. Merci, merci beaucoup, merci madame.
Et moi, et vous, une émission coproduite par la Radio Suisse Romande, Radio-Canada, la Radio-Télévision Belge Francophone et France Inter. Réalisation Philippe Labrousse, assisté de Godric Grosby-Vermeil, mixage Michel Thomas, documentation Janine Marc-Pesé. Merci aux fées clochettes Emma et Sylvie. Olivier Bas, rendez-vous pour Dutronc,
l'ami.